Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Voilà, on le disait en titre, on va parler de quelles sont les consignes à suivre pour naviguer en toute sécurité. Notre invité, Gabriel Mokango, qui est directeur technique à la régie de voies fluviales, vient de nous rejoindre dans ces studios. Merci Gabriel Mokango, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, merci d'être là avec nous dans ces studios pour parler des consignes à suivre pour naviguer en toute sécurité. Nous le disions, la plupart des embarcations qui naviguent, excusez-moi, sur le fleuve Congo ne respectent pas les normes de sécurité. Ces embarcations sont bondées de passagers, des marchandises, sans le moindre respect des tonnages. Certaines de ces embarcations naviguent la nuit sans signaux lumineux, ce qui pose problème. Nous rappelons notre numéro pour des personnes qui veulent intervenir. Appelez-nous 081 890 6394, ou bien vous nous faites un SMS au 081 711 5001. Notre invité se fera certainement le plaisir de répondre à vos questions et préoccupations. Voilà, monsieur Gabriel Mokango, parlons de la navigation sur le fleuve Congo et même sur les affluents. On le remarque souvent lorsqu'on va du côté, par exemple même de Maluku, avec de baleinières qui sont bondées de passagers, et des baleinières qui sont même aussi bondées de marchandises, et même dans certains ports du pays. En principe, il y a des consignes de sécurité qu'il faut respecter. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur toutes ces consignes?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Elle est primordiale. Vous devez savoir que le domaine de la navigation fluviale est régi par des textes. Le premier texte, à ma connaissance, c'est le code fluvial et lacustre. Et là-dedans, on a essayé de définir qu'est-ce qu'on appelle bateau, embarcation, bâtiment flottant, et quelles sont les qualifications qui sont requises pour qu'une personne puisse conduire un bateau, quelles sont les obligations des armateurs ainsi que de l'équipage, et puis un barème de sanctions. À côté de ce texte de loi, il y a deux arrêtés qui réglementent la navigation. Donc là, il est demandé à toute personne qui exerce le métier de capitaine de bateau de s'y conformer et de suivre la réglementation à la matière de manière à ce qu'il soit apte de conduire et en toute sécurité sans mettre la vie de personne en danger.
Mais comment ça se passe pour les cas de baleinières? Est-ce que les personnels navigants, ils suivent une formation par rapport à tout cela? Pour nous, par exemple, je ne sais pas au moins du cas de baleinières.
Oui, ça c'est un cas spécifique. Il faut dire que le conducteur de baleinière n'a pas une formation que je pourrais dire consistante, mais sauf ce dernier temps, puisque son Excellence, Monsieur le Ministre du Transport et Voies de Communication, avait exigé que la délivrance de permis de naviguer soit assujettie à une formation au centre de formation.
Exactement.
Et quelques conducteurs se sont conformés, ils sont allés, mais d'autres non. Donc il faut dire que ce sont des gens qui apprennent sur l'état. Ils étaient de matelots, à force de naviguer sur un cours d'eau, ils ont cru maîtriser et tout le rouillage de ce cours d'eau, et ils s'improvisent conducteurs. Mais ils n'ont pas la qualification voulue.
Et là maintenant, on est en saison de pluie, où on imagine bien qu'il y a parfois une montée des eaux au niveau du fleuve, même des affluents. Est-ce qu'il y a des consignes particulières de sécurité à suivre pour naviguer en toute sécurité?
Bon, il faut dire que un cours d'eau a un régime hydrologique.
Oui.
Vous avez des périodes où vous avez de hautes eaux, de moyennes eaux comme de basses eaux.
Oui.
Prenons le cas typique de cette période ici. C'est la période quand vous prenez le fleuve et pratiquement tous les affluents de l'hémisphère sud, c'est la période de hautes eaux. Il est bien vrai qu'en termes de navigation, pendant les hautes eaux, les dangers sont réduits par rapport à la période de basses eaux. Pourquoi? Le niveau d'eau a monté, la cote de certains dangers qui émergeaient pendant le bas-saison sont complètement immergées. C'est que un capitaine de bateau peut passer n'importe où en appréciant la profondeur ou le quart qui le sépare par rapport au danger. Donc il y a moins de danger à cette période. Autrement aussi, ça permet aux navigateurs de prendre plus de passes secondaires à la montée. Parce que les passes secondaires ne sont apprêtées que en fonction de l'échelle d'étillage qui est fixée à l'endroit précis.
Et les passes secondaires, il y a des indications précises par rapport à ça, parce que nous rappelons que dernièrement, vous avez même entrepris des travaux de balisage pour aider le navigant à savoir les endroits à passer ou à ne pas passer.
Oui, les passes secondaires sont connues parce que nous n'en créons pas d'autres. Quelqu'un qui utilise son arbon de navigation, qui connaît la rivière qu'elle fréquente plusieurs temps, sait que, par exemple, quand nous sommes ici dans le Pool, quand vous êtes en Gamadjo, pour atteindre Maluku, il y a une passe secondaire que nous appelons passe Kabongo. Quand les eaux baissent, nous interdisons aux bateaux d'emprunter cette passe. Donc ils doivent prendre la passe principale qui côtoie un peu la passe française vers la République du Congo et déboucher sur le couloir du Chenal. Et vous avez aussi les cas sous la rivière Kasai, la passe secondaire de Kandolo. Elle peut être empruntée pendant les hautes eaux comme cette période ici, mais quand il s'agit de basses eaux, nous interdisons.
Quand vous dites, excusez-moi, vous interdisez, il y a un communiqué ou bien vous avez des réunions avec ces personnes, bien il y a un communiqué. Vous interdisez, ça se passe comment cette interdiction?
Bon, premièrement, dans l'album de navigation,
oui,
sur le page où sont reprises le passe secondaire,
oui,
il y a un encadré avec des instructions.
Oui.
Et nous faisons aussi les avis aux navigateurs. Bien que ça fait un peu longtemps qu'on ait eu des réunions avec les armateurs, mais par voie de presse, oui, nous déposons aussi les avis aux navigateurs aussi chez vous pour leur dire que les mouillages d'OTAN, vous devez charger jusqu'à tel tonnage et vous ne pouvez pas passer sous le passe secondaire.
Voilà. Il y a déjà des auditeurs en ligne, mais avant de raccorder la parole à cet album de navigation, il est actualisé ou c'est peut-être de vieux papiers que les navigateurs gardent, mais il est actualisé.
Bon, ça c'est vraiment un terrain où il y a des discussions.
Ah bon.
Je puis dire que l'album actuel qui est utilisé, celui du fleuve notamment, date des années 84. Mais il faut se le dire aussi, la géologie de la RDC, quand vous voyez dans la cuvette, ne change pas. Donc personne ici peut dire que la configuration du fleuve a changé au bout de 10 ans. Le fleuve a gardé toujours son lit. Mais il est bien vrai que par rapport aux évolutions hydrosédimatologiques, il y a des bancs de sable qui se déplacent. C'est là où nous suivons le mouvement de ces bancs de sable. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'avec le projet que nous avons avec le 10e FED, refaire un nouvel album à mettre à la disposition des navigateurs qui seront faits sur base de photos satellitaires.
Voilà, quelles sont les consignes à suivre pour naviguer en toute sécurité? Nous en parlons avec Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Vous êtes intéressé, appelez-nous 081 890 63 94.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Nous avons une première vague d'auditeurs qui nous appellent. Il y a Malonga qui est à Kinshasa, Omar qui est également à Kinshasa, Ogi à Bendela qui est dans le Bandundu. On commence avec Malonga. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Malonga. Quelle est votre question?
Ok, merci. Moi, je vais demander seulement à l'invité à quoi servent les éclaireurs? Puisque moi, je vois que eux, le bateau et le baleinier, trouvent leurs difficultés pour négocier les éclaireurs. Là, chez nous, à Bandundouville, il y a des balinières qui font une semaine ou bien deux semaines à cause du manque des éclaireurs. C'est ce que je veux demander. Est-ce que le gouvernement ou bien ces régies de voies effluvières ne peut pas engager définitivement seulement les éclaireurs qui serviront et le bateau et les balinières lors de leur passage?
Voilà, c'est bon, Malonga, merci. Hein. Vous appelez des Kinshasa, on va rester à Kinshasa pour accorder la parole à Omar Kigalo. Omar, bonjour.
Bonjour à vous, Marcel Ngombe, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On s'écoute, Omar.
Merci beaucoup, Marcel. J'ai trois petites questions, mais avant cela, je voudrais d'entrée de jeu remarquer avec beaucoup de regret les abus que nous remarquons de la navigation fluviale. Heureusement, vous avez invité un expert à la matière et quelqu'un qui travaille là-dessus. Moi, je pense que la première cause, c'est l'ignorance des consignes routières. D'abord, beaucoup de navigateurs ne maîtrisent pas ce texte que l'invité vient de citer, faute d'une vulgarisation de la part de ceux qui dirigent. Les deux, il y a un contrôle complaisant. J'ai eu la chance de faire aussi beaucoup de voyages, Kouamoutou, vers Bandundoula. J'ai remarqué que le contrôle est vraiment complaisant. Et avec ces abus, on n'aura jamais une bonne navigation en RDC. La première question est celle de savoir, selon la législation que l'invité a citée, est-ce que toutes les embarcations sont concernées? On parle de bateaux. Est-ce que même le pirogue doit aussi tenir compte de ces consignes routières? Deuxième question, il a parlé du code fluvial et lacustre, il n'a pas des arrêtés, mais l'orthodoxie voudrait qu'il puisse les citer nommément, c'est-à-dire la loi telle, numéro telle, parce que l'objectif de l'émission, c'est aussi être pédagogique, aider ceux qui suivent à savoir consulter ces lois. S'il peut nous dire de quelle loi exactement il s'agit, au lieu d'être seulement large. Et numéro 3, comme dernière question, puisqu'il y a des abus que nous remarquons, beaucoup de navigateurs ne respectent pas les consignes. Qu'est-ce que leur service a prévu comme mécanisme en vue de mettre en œuvre réellement cette navigation fluviale? Voilà mes trois préoccupations, Marcel, je vous remercie.
Merci Omar Kigalo, vous appelez de Kinshasa. On va se rendre à Kikwite, dans le Bandundu, pour accueillir Ogi Bendelo. Bonjour Ogi.
Bonjour Marcel Ngombo Mbala, je salue le directeur Gabriel Mokango et tous les auditeurs qui sont présentement branchés.
On vous écoute, allez-y, quelle est votre question?
Oui, merci Marcel. J'ai une inquiétude. Je me souviens encore, si ma mémoire est bonne, vers les années 99 ou 2000, un baleinier qui quittait Tchikapa pour se rendre à Biponga qui avait fait naufrage suite au surchargement. C'est pourquoi je vais poser les deux questions à notre invité qui puisse me donner des précisions. Est-ce que n'y a-t-il pas des agents fluviaux pour effectuer des contrôles sévères en cas de surchargement dans un baleinier ou dans un bateau? Et ma deuxième question, est-ce que est-il convenable qu'un bateau ou un baleinier puisse naviguer sans sauvetage parce que la fois passée sur la Kulu, donc entre Kikwit et Bandundouville, il y avait un baleinier où les gens étaient brûlés parce que il y a des femmes qui préparaient, il y avait aussi quelques vagues qui contenaient de l'essence, alors il y avait explosion, les gens avaient vraiment été très paniqués. C'est pourquoi j'ai posé les deux questions à l'invité pour que je puisse avoir des précisions. C'était là mes deux questions, Marcel. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio Kati.
Merci, Ogi Bendelo. Vous appelez de Kikwit dans le Bandundu. On revient à vous, Monsieur Gabriel Mokonga. Vous êtes directeur Mokango. Vous êtes directeur technique de la régie des voies fluviales. Alors, avec cette première question de Malonga qui nous appelait de Kinshasa, il parle des éclaireurs. Dites-nous un peu, les éclaireurs, c'est quoi leur travail?
Ok, merci. Je remercie également tous les intervenants pour l'intérêt et la pertinence de leurs questions. Cela démontre qu'ils suivent avec beaucoup d'intérêt le problème lié à la navigation fluviale. Ils parlent des éclaireurs. Sincèrement, je dois dire que c'est un phénomène qui s'est développé avec le difficulté qui avait caractérisé le secteur de la navigation fluviale. À un certain moment, la RVF était absente sur le terrain. Vous savez aussi bien que moi que la nature a horreur du vide. Et ces gens-là, c'est sûr, c'est improvisé. La plupart sont de pêcheurs, sont de riverains. Le fait de côtoyer les cours d'eau tous les jours, et de passer, ils savent que c'est sur la rive gauche qu'il y a beaucoup d'eau, au moins, et ils en ont fait tout un business.
Et ils font quoi? Ils sont ils voyagent également avec des bateaux ou des baleinières, ou bien c'est des gens qui ont des pirogues et puis qui ont des... Ils fonctionnent comment?
Bon, le système fonctionne de cette façon. Aussitôt qu'un bateau se pointe à l'horizon, et avec leur pirogue, ils vont, ils accostent. Ils montent à bord du bateau, ils monnaient leur service, ils font traverser le bateau un tronçon qui peut être de 20, 30 km ou 50. Mais nous disons, il est bien vrai, ils ne sont pas de la régie comme telle. Ça, il faut se le dire. C'est des informels qui sont sur le terrain et ils demandent tout ce qu'ils peuvent demander. Mais ce qui nous peine, ce devoir de capitaine de bateau formé à l'école de navigation, c'est de le commandement à ses apprentis. Donc, eux, nous pouvons considérer qu'ils abandonnent leurs responsabilités. Mais les gens, ils sont sur place et nous avons étudié. Techniquement, nous voulons nous débarrasser d'eux.
Exactement. Oui.
Mais il y a un volet social. Parce que ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, si nous les négligeons, ce sont eux qui vont vandaliser tous les signaux que nous mettrons en place pour qu'on ait éperdument besoin d'eux. Mais, j'avais déjà parlé ici au cours d'une émission, il se met en place un système, nous allons le récupérer comme des ouvriers d'entretien dans le cadre de 10e fête.
Exactement, leur accorder certaines formations.
Une formation qui sera assurée et une prime. Comme ça, ils auront la responsabilité de protéger les signaux au lieu de les détruire et consigner tout ce qu'il y a à bord d'un cahier. Aussitôt qu'un officier balisaire passe par là, il lui présente, il lui remédie à la situation. Ouais,
c'était important de s'attarder là-dessus parce qu'on a parlé des éclaireurs. Alors, on va poursuivre avec Omar qui a demandé à savoir... Enfin, il a d'abord dit que c'est l'ignorance des consignes de navigation qui sont à la base de ce problème de manque de sécurité. Et également, un contrôle complaisant, c'est-à-dire on laisse les baleinières et les bateaux surcharger comme ils veulent. Mais il avait souhaité... Là, c'est vrai qu'on ne peut pas revenir sur tous les codes fluviaux, les arrêter, mais peut-être quelques consignes importantes. Vous pouvez peut-être les énumérer, parce qu'on peut, on a passé du temps pour revenir sur tous les arrêtés sur le code fluvial, mais quelques consignes importantes, vous pouvez peut-être les énumérer.
Oui, je partage son point de vue.
Oui.
L'ignorance de la réglementation, ça tout le monde le décrit, et c'est connu de tout le monde. Le contrôle complaisant, bon, ça c'est son point de vue. Moi j'interviens ici, comme vous avez dit, expert à la navigation.
Oui.
Mais je suis de la RVF. La RVF a pour mission l'entretien et l'aménagement du voie d'eau. Donc, ça relève de l'administration pire qui fait le contrôle des unités. Parce que la régie ne veut pas être juge partie. Mais je sais qu'il y a eu des commissions où on a décrié ça. Mais nous tendons vers, l'éradication de tous ces mots qui cause du tort au secteur de la navigation fluviale. Bon, il a parlé le texte. Ici, je dois dire que l'ordonnance que nous utilisons, c'est l'ordonnance de 1966 qui a été signée par le feu président Mobutu. C'est cette ordonnance qui est en vigueur jusqu'à ces jours-ci. Quand bien même qu'au niveau de la sous-région, il y a la SICOS qui a fait sortir ce que nous appelons le code de la navigation intérieure, CEMAC RDC. Les trois autres pays membres de la SICOS ont déjà ratifié ces codes, mais au niveau de la RDC, les dossiers se trouvent encore au niveau du Parlement. C'est comme ça que nous avons un peu difficile à pouvoir appliquer ça. Mais je n'ai pas le code avec moi, je ne suis pas juriste et je suis technicien. Je sais que le document existe, si je l'avais sous le main, je pourrais lui dire c'était l'article, c'était l'article. Mais il doit savoir sur le code de 1966. Ça doit être 066/1966 que le feu président Mobutu avait signé.
Voilà, on va revenir à deux autres questions d'Omar et de Guy Abendelo, mais il est temps pour nous d'accorder la parole à Dieudonné Kibambe qui nous appelle de Kananga dans le Kassai occidental. Dieudonné, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel Ngongo, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, quelle est votre question?
Voilà, je voulais juste de prime abord vous présenter et vous dire que le constat est très amer. presque sur toute la République, et particulièrement à Tchikapa où j'ai vécu autrefois.
Oui.
Je vous dis, le secteur de navigation œuvre dans d'informer les très très absurdes à Tchikapa.
Dieudonné, allez-y. On a quelques petits soucis techniques avec Dieudonné. J'espère qu'on va le retrouver. Hein, alors là, ceux qu'on va le retrouver, si on ne le retrouve pas, bon, tant mieux. Hein. Donc on va poursuivre avec notre invité, Gabriel Mokango, qui est directeur technique à la régie d'Ivoire Fluvial, pour cette question de Marc Diallo, qui voulait savoir si on a la législation, est-ce que c'est toutes les embarcations qui sont concernées par l'école fluviale, c'est-à-dire même les pirogues?
Non, le code fluvial dont je parlais de 1966, que ce soit le code de la navigation terrestre, CEMAC, RDC,
oui,
définit qu'est-ce qu'on appelle embarcation. Donc le pirogue, quand bien même c'est une embarcation, mais n'est pas régi par ces codes. Ce sont les unités qui y ont 10 tonnes métriques, pour CEMAC, mais pour la RDC, 5 tonnes métriques. Donc, quand vous avez déjà une unité qui a plus de 5 tonnes métriques,
oui,
c'est cette unité qui est concernée par cette législation, et c'est cette unité qui sera sujettie à des taxes. Mais une pirogue, bon, on l'utilise comme moyen de déplacement, mais n'entre pas dans le ligne de compte. Hein.
Mais les baleinières sont concernées.
Les baleinières sont concernées, parce que les baleinières, ils ont des jauges de 20, 40, 60 tonnes, donc ils sont concernés. C'est comme ça, même quand ils naviguent, ils ne font pas comme les pirogues peuvent passer n'importe où, mais le baleinier suit la route de la navigation. Ils sont assujettis. Vous avez, dans le liminaire, dit qu'ils naviguent sans projecteur. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont contraints, à la tombée de la nuit, de pouvoir accoster quelque part et attendre la matinée pour continuer leur voyage. Mais bon, ils bravent le danger, ils veulent naviguer jour et nuit pour gagner le temps.
Avec tous les dangers que cela porte. Voilà, Dieudonné Kibambe est à nouveau en route. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Dieudonné, bonjour. Rebonjour. Voilà, allez-y, quelle est votre question?
Je dirais que le constat est presque très amer,
oui,
sur tous les temps de la République.
Oui.
J'ai vécu autrefois à Tchikapa, la rivière Kassai, Buponga, Kavu, des parties par là. Mais si vous, je me suis rendu compte que vraiment aucune réglementation sur la rivière Kassai, les armateurs eux-mêmes ne sont même pas formés pour avoir de plus en plus de précision qu'est-ce qu'un armateur peut faire quand il a une balnière. Les balnières, vous voyagez nuit et jour, sans phare, vraiment c'est un peu terrible. Alors je voulais juste poser une petite question à l'université,
oui,
là. Les textes, c'est bien, en amont là. Mais il se pose un problème très morose au niveau de l'application de ces textes-là.
Allez-y la question, Dieudonné.
Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de sensibiliser, faire vraiment des formations, de sensibilisation là, montrer comment on peut recruter un chauffeur dans une baleinière, montrer comment on peut être chauffeur, comment on peut conduire une baleinière, parce que les chauffeurs à Tchikapa foisonnent comme des déchets. Il suffit vraiment d'être à côté d'un ex-chauffeur, tu deviens chauffeur au jour le jour. Pas des notions de chauffeurs. Vraiment, ça, c'est ça. C'est la vie des gens qui est vraiment mise en danger. Les naufrages, puis lui, à Tchikapa, sur la rivière Kassai. Deux jours, on arrête le procès de la baleinière. Et deux autres jours, il est relâché. Parce que vraiment, il est friqué, il a beaucoup d'argent. L'un des quatre matins, il est libéré, mais à ce niveau-là, je ne sais pas
voilà, pourquoi. Merci.
On peut réglementer
merci, la navigation. Merci Dieudonné. Merci de nous avoir appelé du Canada dans les Caraïbes occidentales. L'invité a compris votre préoccupation. Va répondre. Voilà, Gabriel Mokango, vous allez répondre à la préoccupation de Dieudonné, mais avant, rapidement, à cette question de Guy Bendelo qui voulait savoir pourquoi il n'y a pas des agents fluviaux pour les contrôles sur le cours d'eau, pour voir si les consignes des sécurités, sur les tonnages, sur les projecteurs, tout ce qu'il faut sont appliqués. Et puis, est-il convenable qu'un bateau puisse naviguer sans bouée de sauvetage?
Ok, merci pour cette question. Je dois dire ceci, ces inquiétudes sont fondées,
oui,
mais il doit savoir que l'État qui y a pour rôle la réglementation et la normalisation de ce secteur de voie fluviale a prévu de postes où il y a des commissaires fluviaux.
Oui.
Même au niveau du lac, il y a des commissaires lacustres. C'est pour dire qu'un bateau qui quitte Kinshasa, par exemple, quand il atteint Kwamout, il y a un commissaire fluvial.
Ah, d'accord.
Il doit présenter ses documents de bord, voir. Bon, s'il y a complaisance, c'est à ce niveau. Parce que le commissaire fluvial a l'obligation de descendre, de faire une visite, voir dans quel état l'unité est chargée, la liste d'équipage, l'assurance de personnes qui l'a souscrite. S'il trouve que c'est non conforme, il a l'obligation de demander à ces bateaux de rester au port jusqu'à ce qu'il va se conformer.
Là, c'est bien clair. On a compris qu'il y a tout de même des endroits pour contrôler. Mais si on peut rapidement finir avec la réglementation, hein, comment faire en sorte que cela soit observé? Puis surtout, est-il convenable qu'un bateau puisse naviguer sans bouée de sauvetage rapidement?
Le bouée de sauvetage, ça, ce sont des matériels de protection.
Oui.
Ça doit nécessairement et au prorata de personnes qu'on transporte. Et pour la question de
la réglementation, comment réglementer les secteurs?
Oui, mais si Dieu donné dans ça va, c'est ça aussi le grand problème. Il ne suffit pas d'être friqué pour tomber dans une profession et ne pas connaître le méandre de cette profession. Donc lui, devenant armateur, doit s'assurer quelles sont ses responsabilités, ses obligations. Quand il aura suffisamment de formation, de connaissances à ce niveau, il saura que je ne peux pas engager quelqu'un qui ne présente pas un cursus qu'il faut.
Exactement. Oui.
Donc il doit savoir quelle expérience qu'il a en matière de la navigation, est-ce qu'il est passé par l'école, il a combien d'heures de navigation, comme ça se fait pour le secteur aérien. Ben, eux, ils veulent le moins offrant, ils le payent moins, et il ne regarde pas la qualification de la personne. C'est comme ça que nous décrions tout ça.
Oui.
Bon, il parle le texte, c'est bon.
La conclusion.
La conclusion, il faut que les uns les autres s'assument. L'État fait sa part de responsabilité. La RVF aussi a le rôle de bien baliser le cours d'eau. La direction de la marine a l'obligation de faire respecter la réglementation. Les armateurs aussi doivent se conformer et avoir la formation.
Tout le monde.
Il ne faut pas qu'on se jette des pierres et on tire la couverture de son côté. Tout le monde a la responsabilité et pour que ce secteur soit assaini et que ce secteur devienne viable comme par le passé.
Voilà, Gabriel Mokango, vous êtes directeur technique de la régie des voies fluviales. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des consignes à suivre pour naviguer en toute sécurité. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.